sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans l'Amérique et vous sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. John Lyndon à la présentation. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Jeune Burundais venu participer à une compétition de robotique à Washington ont choisi de ne plus retourner dans leur pays. La police de la capitale américaine a finalement fait savoir que deux de ces jeunes se trouveraient au Canada et que les quatre autres se trouvaient en lieu sûr sans plus de précision. Il arrive en effet que des Africains retenus pour participer à certains programmes de formation ou d'échange du département d'État américain ou d'autres organisations gouvernementales ou non gouvernementales décide, comme c'est le cas de ces six jeunes Burundais, de ne plus retourner en Afrique. Alors, que pensez-vous de l'attitude de certains Africains qui, lorsqu'ils obtiennent un visa non immigrant pour les États-Unis, décident de ne plus retourner dans leur pays? C'est autour de cette question que s'articule l'Amérique et vous de ce vendredi. Pour participer, laissez-nous vos commentaires et numéros sur Facebook ou appelez-nous en direct au 001-202-205-2633. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur voafrique.com. Pour m'accompagner dans cette émission, on aura Olivier Bibou Nissak depuis le Cameroun, il me semble. Bonsoir. Bonsoir, Olivier.
Je vois, il s'en.
Voilà, on a également Henri Désiré Nzosi. Henri, bonsoir.
Oui, bonsoir, Pierre.
Voilà, notre invité. Donc, votre avis déjà sur cette actualité. Je vais commencer par Olivier Bibou Nissak.
Oui, écoutez, John, en effet, c'est une malheureuse habitude qui vient de nouveau d'être remise à la mode par la disparition de ces six étudiants qui sont arrivés pour participer à un concours de robotique. Il faut d'abord dire que dans l'ensemble, si on remonte à la période de la guerre froide, on avait déjà vu ça, c'est-à-dire les pays du bloc de l'Est, lorsqu'ils arrivaient dans les pays du bloc de l'Ouest, lorsque des ressortissants de ce pays, surtout au plan sportif, se retrouvaient dans les compétitions internationales, c'était devenu une habitude de les voir faire défection pour demander l'asile dans les pays dits du monde libre. Donc, désormais, c'est plus récurrent dans les pays africains, et aussi paradoxalement que cela pourrait paraître, j'ai plutôt l'impression que ces six étudiants sont des victimes de la pauvreté, de la mauvaise gouvernance et de l'état pitoyable dans lequel se trouve le Burundi depuis que le président qui dirige ce pays a décidé, en passant par la force à la limite, de passer outre les règles de droit et de mettre en péril la paix dans ce pays.
Voilà, il faut dire effectivement, et cela n'est pas en soi une excuse, il faut dire que le Burundi connaît une situation difficile en ce moment. Alors, Henri Désiré, votre point de vue sur cette actualité, déjà avant qu'on aille dans le fond du sujet?
Bon, l'attraction de plus en plus forte qu'exerce à la fois le mode de vie, les conditions de vie des États-Unis et même du Canada, ne fait pas un mystère. C'est évidemment un attrait extrêmement fort, très puissant, qui incite effectivement des jeunes, ça vient d'être rappelé, qui sont issus d'un pays qui effectivement a connu un processus politique assez particulier, assez chaotique, qui n'était plus en capacité de garantir leurs droits les plus légitimes. On peut effectivement déplorer le fait qu'il y ait eu cette défection, ce n'est pas nouveau, cela a été, rappelé. Mais ce qui rend ce phénomène davantage, important, c'est peut-être le développement des nouvelles technologies, finalement, avec toutes ces images qui sont constamment passées en boucle pour des jeunes qui sont en quête de l'Eldorado, même si on sait qu'à terme, ça peut être une désillusion. Cela étant, si ces jeunes ont décidé de prendre la poudre des scampettes, c'est effectivement désespoir des causes. Comme tout projet, justement, puisqu'il est collectif, il y a plusieurs jeunes qui ont décidé de franchir le pas. Cela a dû être durement réfléchi. Et je pense qu'à ce niveau-ci, ce que l'on pourra peut-être déplorer sur le moyen terme, c'est le durcissement de certaines conditions d'octroi de visa, puisque à cause de cet épisode malheureux, eh bien, d'autres originaires des pays africains devront en pâtir. Et c'est malheureux.
Voilà, vous parliez des technologies tout à l'heure. Je dois dire que ces jeunes participaient à un concours de robotique. Le fait même déjà qu'ils soient retenus montre tout de même qu'ils ont quelque chose qu'ils voudraient apporter dans ce domaine. Et comme je le disais encore, ce n'est pas une excuse. On va prendre Ali Ngoy au téléphone. Ali, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Voilà, vous nous appelez et vous disiez que sur Facebook, en Afrique, c'est devenu difficile pour vivre simplement, et que même avec un diplôme en poche, on ne peut pas trouver d'emploi, il n'y a pas de liberté, et c'est le cas de ces Burundais, vous dites.
Oui, justement, parce que vous voyez, le cas de ces gens-là, ce sont des élites, les gens qui ont donné bien dans les sciences, donc qui ont de bonnes capacités, qui ont fait de bonnes recherches, donc ils sont des cadres intellectuels, mais qu'est-ce qui se trouve? Donc, rester chez eux, ces gens là-bas, donc ils ne peuvent rien avoir, même avec leur diplôme. Donc, leur diplôme ne leur garantit rien. Donc, c'est ce qui fait que ces gens-là se retrouvent dans ce pays là-bas, là où ils peuvent se retrouver facilement, ils peuvent se taper facilement un travail, donc ils décident de fuir. Et ajouter tout ça, la liberté d'expression dans leur pays. Donc, ce sont les gens qui vivent la situation que nous vivons pratiquement ici, en Afrique centrale. Donc, pas seulement qu'il est difficile de vivre, même si on a étudié, mais aussi, il y a aussi un problème de liberté, donc c'est très difficile de vivre. Donc ce n'est pas vraiment par mon vouloir. Si ces gens-là avaient des garanties, après les recherches, d'avoir du travail chez eux, donc ils pouvaient rentrer. Mais comme ils savent que non, quand même, quelles que soient les recherches, quels que soient les mérites intellectuels qu'ils font, mais ils ne peuvent rien avoir, donc voilà ce qui fait que non, ils sont en train de faire donc.
Alors, est-ce que vous connaissez autour de vous des gens qui ont voyagé et qui ne sont plus revenus, pas seulement aux États-Unis, mais dans d'autres pays, en Europe, en Asie et partout ailleurs dans le monde?
Oui. Voilà, justement, parce que dans l'entourage ici, on a eu des amis avec une ancienne université, mais qui ont eu à voyager. Mais du fait qu'ils rentrent, c'est difficile, ils se tapent même un travail, donc ils décident bien de rester. Et même nous qui sommes ici, parce qu'on a, bien étudié, on a des diplômes universitaires, mais on ne sait pas se retrouver. Donc, on aime bien rester ici chez nous, mais avec un emploi, avec cette assurance-là de vivre, donc d'avoir une occupation indépendante. Ce qui fait qu'ici, justement, c'est le fait là de juste vivre, donc ça devient difficile, même quand on a la grandi, parce que avant là, c'est dire que quand on a étudié, on a un diplôme universitaire, donc c'était quand même une garantie d'avoir un emploi, d'avoir une option dans des recherches et d'être rémunéré, non.
Alors, voilà.
Même avoir un diplôme universitaire n'est plus une garantie d'être rémunéré, donc d'avoir un emploi.
Merci. Merci Ali Ngoy. Olivier, à votre avis, à qui la faute lorsque des gens partent de leur pays et viennent et voyagent et ne retournent plus? Est-ce la faute du gouvernement ou alors celle de ceux qui leur donnent les visas?
Alors, d'abord, il faut clairement dire qu'il n'y a pas une responsabilité exclusive. C'est une responsabilité partagée. Je m'explique. La question de fond derrière ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est en réalité la question du sous-développement en Afrique et de la pauvreté en Afrique. Or, dans une large mesure, ce sous-développement et cette pauvreté sont, il faut le dire, sans embâche, sont orchestrés. Quand vous prenez la plupart des pays africains qui sont producteurs de matières premières, etc., ce n'est pas par hasard qu'ils n'arrivent pas à transformer ces matières chez eux. C'est bel et bien parce qu'il existe un consensus non écrit, certes, d'un consensus au niveau des États dits puissants pour que, justement, il n'y ait pas de transfert de technologie en direction de ces gens-là pour qu'ils puissent, par exemple, développer l'industrie. C'est aussi sur la base d'un tel consensus que le prix des matières premières, leur situation échappe aux pays producteurs africains notamment et sont établis dans les marchés que sont Chicago ou Londres. Et ça, c'est des causes plus ou moins lointaines, mais en relation directe avec ce dont nous parlons. Vous rajoutez maintenant à ça des gouvernants qui sont, comme dans le cas burundais, totalement irresponsables et dénués du sens de l'État et de l'intérêt général des populations et du pays, qui préfèrent, pour leur propre privilège, mettre en péril la cohésion nationale, mettre le pays à feu et à sang et instaurer un régime de terreur pour simplement pouvoir se perpétuer à la tête de ce pays-là.
Alors,
je pense qu'en réalité, c'est là les principales raisons et les gens comme ces étudiants ne sont que des victimes de ce système finalement vicieux.
Alors, Henri, est-ce que, à votre avis, il suffit simplement de venir rester sans pour autant préparer les conditions, parce qu'il y a des gens qui restent mais qui deviennent des illégaux et qui finalement ne peuvent pas s'insérer dans la société? Vous vivez en Belgique, ça doit être le cas en Europe et ici aux États-Unis également.
Écoutez, quand on regarde dans le détail le voyage de ces jeunes gens et leur participation à cet événement, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un itinéraire qui était beaucoup moins risqué qu'une embarcation traversant la Méditerranée, très clairement. Et donc, de plus en plus de jeunes sont prêts à prendre ce risque-là, d'entrer dans la clandestinité, en se disant que, de toute manière, la situation des uns est toujours individuelle et qu'on ne peut pas généraliser une situation. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut faire peut-être appel à des éléments psychologiques et, je dirais, conjoncturel. Bon, on le sait, hein, ça a été rappelé plusieurs fois, la pauvreté, etc., qui est couplée à une forme de d'exubérance démographique, hein, qui fait que la pauvreté s'étend comme nulle part ailleurs. Certaines ressources naturelles ont tendance à diminuer, et donc forcément, ce qui pourrait être mis à la disposition des populations s'amenuise, et c'est ce qui incite les gens à partir. Si vous ajoutez à cela des éléments psychologiques, comme par exemple l'absence totale de liberté, et le fait par exemple que quelqu'un qui est disposé à entreprendre dans son pays ne peut le faire en toute liberté parce qu'il est soit embêté par la famille, parce qu'il ne sait pas économiser de l'argent, parce que son outil de travail est en permanence menacé par un système totalement instable. Vous avez tous ces éléments qui font que des gens aujourd'hui très jeunes, on l'a rappelé, hein, 16, 17, 18 ans, prennent ce risque-là. Et c'est là, je pense, qu'il faut trouver des mécanismes pour retenir ces jeunes et pour les dissuader de tenter une telle aventure. Mais ça, c'est plutôt une toute autre histoire.
Alors, El Awa, vous nous appelez du Cameroun et vous dites que cette attitude est normale parce que, vu les conditions du pays, ces enfants n'auraient pas pu réussir au Burundi.
Oui, bien sûr, parce que si le pays ne connaît pas les vraies valeurs, bien les talents de ses enfants, c'est qu'ils trouvent qu'ailleurs dans notre pays, sans dire on peut reconnaître le talent à la juste, à la juste valeur, c'est mieux d'arriver là-bas et de partir. Et c'est déjà répété ici au Cameroun plusieurs fois, surtout au niveau des athlètes, qui constatons qu'à chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques, nous perdons les athlètes parce qu'au pays, on ne connaît pas les vraies valeurs. Donc c'est là le problème, je ne peux pas les en vouloir. Mais si c'est dans le cas où le pays a pensé bien soutenir le concours et qu'ils arrivent là-bas, ils partent, c'est là où il y a le problème. Dans le cas contraire, ils ont raison.
Alors, El Awa, à votre avis, comment est-ce que il faudrait créer la confiance finalement entre les ambassades par exemple et les autres qui voudraient voyager plus tard, parce que si des gens participent à un programme et qu'ils viennent rester, ça diminue les chances des autres.
Oui, c'est aussi là le problème. Donc comme vous l'avez dit tantôt, il faudra organiser une sorte de surveillance au niveau des ambassades et aussi d'ailleurs donner la confiance à ceux-là qui parlent pour ces compétitions, financer le projet et se mettre en sorte que ce projet soit développé. Ainsi, on les accorde une confiance et leur donne sa connaissance de connaître que le travail doit être reconnu par le pays et pouvoir développer cela.
Voilà. Olivier Bibou, est-ce que, à votre avis, il y a un moyen qui pourrait permettre justement de renforcer la confiance entre les ambassades et tous ceux qui veulent voyager, par exemple, donner des visas entrées multiples ou bien à des groupes de personnes, des journalistes, des acteurs culturels, des sportifs? Peut-être parfois aussi le fait de vouloir voyager, c'est simplement aller découvrir et revenir.
Alors, en réalité, je pense qu'il y a certes des solutions qu'on peut proposer. On peut, par exemple, suggérer que les personnes qui bénéficient de visa, parce qu'en fait, il faut plaider pour que les échanges entre les différentes nationalités demeurent. C'est sur la base des échanges, quand même, que l'humanité progresse. Nous en avons besoin, c'est indispensable. Il faudrait peut-être imaginer des processus d'encadrement et d'accompagnement qui soient, tout en étant plus draconiens, ne soient pas pour autant assimilables à des escortes de police ou de gendarmerie. Que par exemple, on ait davantage de mentors qui accompagnent de manière un peu plus étroite ceux qui viennent. On pourrait mettre à profit certaines prouesses de la technologie en ce moment. On ne va peut-être pas les mettre avec des anneaux de sécurité ou de tracking, mais on peut imaginer ces hypothèses-là. Mais ce que je pense surtout plus important que ces mesures ponctuelles, il faudrait davantage et plus que jamais poser la question du sous-développement de l'Afrique et mettre les pieds dans le plat en attribuant à ceux qui ont la possibilité aujourd'hui de faire le monde un peu plus vertueux, eh bien, de leur dire prenez vos responsabilités et si vous dites que l'Afrique est le continent de l'avenir, il faut définitivement libérer les cordes et ouvrir les énergies sur ce continent-là.
Alors, on va aller en Côte d'Ivoire rencontrer ou parler à Yao Marcelin Kofi. Yao, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, vous dites que cette attitude des Africains est à condamner.
Oui, bien sûr, je condamne avec la dernière énergie, parce qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai donné raison à Trump, à la politique d'immigration de Trump. Avec ce genre de comportement que nous avons, vraiment, ça a déploré. Il faut être un peu rigoureux aussi dans la délivrance des visas, parce que si les aventuriers burundais vont aux États-Unis, pour aller en balade, il faut être rigoureux aussi dans la délivrance des visas. Parce que c'est ça qui tient l'image de l'Afrique. Pour dire que l'Afrique est mal positionnée, avec tous les mots que nous avons déjà, c'est pas un comportement qui fait honneur à l'Afrique.
Alors,
je condamne avec la dernière énergie.
Yao Marcelin, vous êtes en Côte d'Ivoire, il se tient en ce moment dans votre pays, les Jeux de la Francophonie. Est-ce qu'on peut s'imaginer des cas où des gens qui sont venus participer à ces Jeux, des cas où ils resteraient sans rentrer dans leur pays?
Tout à fait, c'est le cas à ne pas isoler, puisque en Afrique, ici, la Côte d'Ivoire est une locomotive dans la sous-région. Il y a des pays africains qui sont présents actuellement en Côte d'Ivoire. C'est on voudra y rester. Parce qu'actuellement, l'image, la Côte d'Ivoire sort d'une crise, mais la Côte d'Ivoire, c'est bon vivre. C'est une destination à recommander.
Voilà, une destination.
Ce n'est pas le cas à isoler.
Voilà, une destination à recommander. Henri, à votre avis, Henri Désiré, à votre avis, est-ce que des cas comme celui qu'on vient de voir, celui du Burundi, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que on n'assiste plus à ce genre de situation? Si oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis?
Écoutez, ce qui est arrivé est déplorable compte tenu des conséquences que cela aura pour les autres demandes de visa, mais c'est très peut-être intéressant aussi de rappeler que depuis une vingtaine d'années, ce sont pratiquement 1 million d'immigrants qui entrent en fait chaque année aux États-Unis. Et donc, sur les 44 millions de personnes nées à l'étranger et qui vivent aux États-Unis, il y a plus de 27% d'Africains. Donc, ça veut dire quand même que parmi eux, il y a des gens qui sont en situation régulière, une proportion, je dirais, de clandestins, mais ils seraient, à mon avis, hasardeux de focaliser sur ce cas-là précis, certes symptomatique, mais qui donne raison effectivement à ceux qui souhaitent de manière drastique, limiter
l'immigration aux États-Unis. Je viens de vous rappeler que ça fait 1 million par personne, ça par année. Dans les années 90, déjà, il y avait une proposition qui avait été faite qui limitait à 550 000 entrées par an. C'était d'ailleurs une proposition de Barbara Jordan. Mais bon, vous savez ce qui se passe en général. Hein, lorsque l'on arrive au pouvoir, on est confronté au principe de réalité. Et il y a eu, je dirais, un fléchissement en termes de politique d'immigration qui fait qu'effectivement il y a eu un appel d'air et que certains ont pu en profiter. Mais je pense aujourd'hui qu'il serait malheureux pour ceux qui tentent cette aventure de compromettre les chances du plus grand nombre d'entrer de manière tout à fait légale sur le sol américain.
Voilà. Moïse Djerang-Yansou, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous dites que c'est une mauvaise attitude parce que les États-Unis c'est pas le paradis, dites-vous.
Oui, vraiment, c'est malheureux de voir toute la jeunesse africaine le regard tourné vers les États-Unis, l'Europe ou l'Asie, parce que ce n'est pas le paradis là-bas. Ils doivent rester dans leur propre pays et travailler pour leur propre pays qui est l'Afrique. Et par exemple, l'attitude de ces jeunes Burundais, je condamne cela avec une dernière énergie. Parce que ces jeunes sont partis pour faire quelque chose et finalement ils sont disparus comme ça dans la ville. Ils ne veulent plus revenir dans leur pays. C'est ça, c'est normal. L'Afrique n'est pas l'enfer. Ces jeunes-là doivent savoir que l'Afrique n'est pas l'enfer. L'Afrique, c'est une terre de l'avenir. L'Afrique, c'est l'avenir du monde. Donc, ils doivent avoir la volonté de rester dans leur pays, de travailler dans leur pays, chercher à avoir des petites formations dans leur pays pour pouvoir aider leur pays et l'Afrique. Donc, ils ne doivent pas aller comme ça pour devenir des esclaves dans un autre pays.
Mais quelles sont les conditions, Moïse, que les autorités sur place en Afrique prennent pour pouvoir faciliter la vie à ceux qui y vivent?
Il faut former ces jeunes-là. Il faut leur donner de l'emploi. Leur former au petit métier, leur donner de l'emploi. Il faut que les autorités combattent la pauvreté qui menace l'Afrique. Il faut qu'ils évitent les guerres.
D'accord.
Donc, il faut qu'ils créent des écoles, des industries pour ces jeunes-là, et qu'ils n'auront pas l'envie ou la volonté d'aller souffrir ailleurs.
C'est entendu, Moïse. On va prendre Hassan Omar Boulalé. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous dites que c'est de la désolation en Afrique. Pourquoi?
Pour voir l'environnement d'envie de la jeunesse africaine. C'est ce qui cause problème. Pourquoi cette immigration clandestine ou cette immigration qui ne dit pas son nom, des gens qui passent comme ça pour en aventure ou qu'on donne l'opportunité de faire quelque chose ailleurs et qui ne reviennent plus parce que c'est l'environnement qui pose problème pour la jeunesse africaine. Tous ceux qui veulent aujourd'hui que la jeunesse africaine ou les jeunes africains restent en Afrique, ils doivent au moins aider et donner des opportunités à ces jeunesses à rester en Afrique. Il n'y a pas ces opportunités qui existent en Afrique actuellement. Donc c'est ce qui cause que chaque Africain ou chaque jeune Africain cherche l'Eldorado aux États-Unis ou en Europe. Donc il faut essayer de redynamiser l'environnement.
Merci.
Et donner, voilà.
Merci Hassan. Olivier et Bibou et Henri, je vais vous poser à tous les deux cette question. Il y a des centaines d'années, on partait prendre en Afrique des Africains pour les amener ici comme esclaves. Aujourd'hui, c'est les Africains eux-mêmes qui viennent par un moyen ou par un autre. Est-ce que c'est pas l'Afrique finalement qui est toujours perdante, Henri?
Écoutez, c'est un mouvement irrésistible, irrépressible, dans un contexte de globalisation. Donc, c'est un mouvement contre lequel, malheureusement, il sera difficile de lutter parce que c'est tout simplement dans l'ordre des choses et parce qu'il y a une soif insatiable de liberté.
Et c'est cette liberté-là qui permet aux uns et aux autres de se déplacer. Alors, Henri, un dernier mot avant de se quitter. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire des visas et comment est-ce que les gens peuvent voyager? Parce qu'il y a une immigration légale aussi, c'est-à-dire que si vous voulez venir faire des études, travailler, vous pouvez le faire légalement.
Oui, heureusement d'ailleurs que c'est cette immigration-là qui est majoritairement acceptée et qui pose le moins de problèmes, mais nous ne pouvons pas exclure les accidents de la vie qui font que certaines personnes entrées illégalement se retrouvent dans la clandestinité. Il appartient donc aux autorités américaines de trouver des mécanismes permettant à ces personnes d'être tout simplement régularisées.
Voilà, merci Henri. Olivier, le mot de la fin?
Oui, je dirais simplement que j'inviterais les frères à être un peu plus indulgents. Ça ne sert à rien de condamner avec la plus grande énergie ce qui est une détresse humaine. On ne condamne pas la détresse, mais on cherche à en trouver les causes pour mieux la réparer et empêcher que cela se reproduise. Face à l'aspiration humaine que représente le bonheur...
Voilà, Henri, c'est la fin. Olivier, c'est la fin de cette émission. C'est la fin de cette émission qui était mise en onde par Lionel Gaïma. Et puis Tara Wallet était à la mise en onde. John Lydon vous l'a présenté. Je vous laisse en compagnie de Eki Abadou. C'est pour les informations. Merci.